Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent dans le football, que le football est de plus en plus visible, et comme il est de plus en plus visible, il attire beaucoup plus les investisseurs, l'argent, et que les sommes, effectivement, deviennent très importantes et n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient. Il y a quelques années, en deux ou trois générations, le salaire des joueurs, le salaire des vedettes, a explosé, et les meilleurs joueurs du monde, aujourd'hui, gagnent 10 fois plus que le meilleur joueur du monde gagnait il y a 15 ans, qui lui-même gagnait 10 fois plus que celui qui était le meilleur joueur du monde il y a 30 ans. Donc il y a vraiment une explosion des salaires, une explosion des investisseurs. En termes d'équité sportive, ce qui compte, c'est que tout le monde soit sur la même ligne de départ. Est-ce qu'il y a des clubs qui ont le droit de s'endetter? D'où vient l'argent? Et donc je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est la montée de la puissance de l'argent dans le football qui fait que certains clubs ont plus de moyens d'investir que d'autres et la régularité des financements, est-ce que c'est de l'argent sale ou de l'argent propre? Il faut faire très attention à ce que les mafias, à ce que l'argent sale ne vienne pas dans le football.
Donc on peut dire que le football se transforme par sa relation à l'argent, mais dès lors peut-on concilier l'éthique sportive avec ce nouvel ordre économique?
Alors bien sûr, ce que l'on peut craindre, c'est que ce soit les budgets des clubs qui fassent le résultat des compétitions. Et dans ce cas-là, si on connaissait et qu'il y a une volonté de certains clubs de ne pas courir des risques parce qu'ils ont tellement investi que la défaite n'est plus simplement une défaite sportive, qu'elle peut devenir une déroute économique. Et en ce sens-là, bien sûr, il y a une pression des clubs les plus riches pour réduire les aléas de la compétition. Pour l'instant, le pouvoir sportif a résisté à ces demandes et a fait en sorte que ça soit toujours, qu'il y ait toujours un système, par exemple, de relégation, de qualification qui ne soit pas automatique. Mais il est certain que lors des quarts de finale, par exemple, de la Champions League, on voit généralement les mêmes clubs. Ce sont les gros budgets. Alors, comme fort heureusement, ce n'est pas toujours le même qui gagne, fort heureusement, il n'y a pas eu deux clubs anglais en finale et fort heureusement, ce n'est pas le club du championnat le plus riche qui a gagné. Il y a toujours une part d'incertitude, mais si, sur le long terme, c'était le budget qui déterminait quel était le vainqueur de la compétition, tout simplement, on tuerait la poule aux œufs d'or parce que le public, à terme, se détournerait de cette compétition.
Et on l'a vu dernièrement que Michel Platini était intervenu suite à ces transferts. Et donc lui, en tant que président de l'UEFA, trouvait ça vraiment choquant. Quelles mesures peut-on mettre en place pour préserver une certaine éthique dans le football?
La mesure qui pourrait être mise en place, mais il faudrait qu'elle soit acceptée, c'est le fait de dire que les clubs, pour participer à une compétition, ne doivent avoir un bilan positif, ne pas être plus endettés que les autres, donc mettre en place cette direction nationale de contrôle et de gestion, ce à quoi les clubs anglais résistent avec la plus farouche énergie.
Dans quelle mesure pensez-vous que le football va évoluer ces prochaines années et dans quel sens?
Écoutez, il faut voir si on a atteint le pic, si les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, est-ce qu'on a atteint le plus grand en termes de budget ou est-ce qu'au contraire on va continuer à monter? Pour l'instant, à chaque fois qu'on disait que les sommes sont folles, on ne pourra pas aller plus loin, eh bien, on a battu ces sommets. Mais il faudra bien un jour s'arrêter et là, d'un certain côté, c'est le marché qui va décider.